Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, quelle joie de vous retrouver comme chaque lundi à 19h, 20h30. Alors on va avoir encore beaucoup de choses à vous dire, à vous raconter. Donc ce soir on aura notre point foot traditionnel avec notre ami Stéphane Desenclos et Marius que je salue. On aura également un beau journal des sports avec Théo et puis Stéphane Sorando aussi qui est là ce soir. Vanessa, tout le monde est en forme auprès de la table. Et puis notre invité Philippe Rajot qui est un habitué, qui est venu aujourd'hui. En tant que représentant du GDOS, Philippe, avant tout, oui, secrétaire bonsoir. Général, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Bonsoir à tous et à toutes.
Voilà, très bien. Donc, parce qu'on parlera de la remise des meilleurs sportifs parisiens, soirée qui a eu lieu au mois de février, pendant les Jeux Olympiques d'hiver. On y était, on en reparlera. Puis, je sais que vous avez aussi d'autres projets dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc, on aura aussi l'occasion d'en reparler. Je vais saluer donc tous ceux et toutes celles qui m'accompagnent autour de cette table. Bonsoir Vanessa, ça va ?
Bonsoir Philippe, très bien.
T'as bien récupéré ? T'as pris quelques jours de vacances après les Jeux, t'as bien récupéré.
J'ai fait un petit tour aussi au ski.
Ouais, bah c'est bien. Ouais. Voilà, tout chousse, hein, c'est bien.
Tout chousse.
Bonsoir Stéphane, lui aussi après un petit peu de période de repos, ça va Stéphane ?
Bonsoir.
Et je sais que mon petit doigt m'a dit que t'étais sur Albertville.
Ouais, tout à fait.
Ah, c'est bien.
Oui, j'ai pu voir les sportifs qui nous ont fait rêver durant ces Jeux Olympiques de Milan Cortina. Ouais. Et tiens d'ailleurs toi qui es particulièrement fan de clins d'œil historiques, ils ont fait un très bel hommage au JO d'Albertville 92 rappelé justement tous les bénévoles qui avaient travaillé dans ces JO avec leur tenue d'époque.
Ah, c'est bien. Ouais. Ouais. Bonsoir Marius donc.
Bonsoir Philippe, ouais. Bonsoir
toi, t'as vu que du foot tout ce week-end ?
Ah, que du foot, plus on arrive dans le concret là, en Champions League. Donc,
ouais. Et puis je vais saluer Théo, un beau journal des sports. Et puis Théo, déjà une annonce, on aura une belle soirée de Ligue des Champions, PSG-Chelsea, sur Mon Paris FM le 11 mars prochain.
Salut Philippe, salut à tous. Ouais, mercredi prochain, on va suivre ce match PSG-Chelsea avec grande attention.
Très bien, alors Philippe, on en vient donc, je l'ai dit, à parler donc de cette soirée des trophées du sport parisien. C'est un vieux classique, cette soirée quand même.
Oui, ça fait des années que ça existe. C'est la 8e ou 9e édition que le SDOS fait la soirée des trophées parisiens. On a eu la chance cette année que la mairie du 13e nous prête sa salle, donc ça a été une superbe soirée.
Oui, parce qu'il faut le dire quand même, cette soirée, vous tournez, parce que tous les GDOS organisent des soirées annuelles. Moi, j'en ai connu d'autres dans les Yvelines, notamment sur Versailles, mais tous les GDOS font des soirées comme ça, annuelles, récompenses aux meilleurs sportifs. Vous, la particularité, c'est que vous changez d'arrondissement chaque année.
On essaye de changer d'arrondissement, d'aller dans tous les arrondissements parisiens. Donc cette année, c'est le 13e, la mairie du 13 qui nous a reçus. L'année dernière, on avait été, c'était le 10e. Et donc, c'est par rapport aussi à le lieu et puis que les salles soient libres.
Oui, bien sûr. Alors, c'était la 44e édition, j'ai lu. En préparant donc, ça fait un moment.
Voilà. On en a vu des athlètes. Ouais. Hein.
Alors, comment se font les choix des athlètes ?
En fin de compte, par rapport aux résultats qu'on a, les membres du conseil d'administration sont chargés d'aller dans tous les clubs parisiens, les ligues et comités, et on voit avec eux comment on peut récupérer nos sportifs.
Oui.
Donc cette année, on a été très bien, on a été honorés parce qu'on a eu quand même des jeunes qui m'ont surpris. Moi.
Oui, alors, il y a donc un comité qui se réunit, on propose donc des noms.
On propose des noms.
Quand, à partir de quand ? Au mois de septembre ?
Oui, c'est au mois de septembre. Voilà,
si on fait un exploit le 15 décembre,
c'est sur l'année civile. Cette année, par rapport aux salles parisiennes, on n'a pas pu, donc on a décalé d'une année. C'est sur l'année civile, et donc il y a une commission au SDOS qui se réunit par rapport à tous les... toutes les personnes qui nous ont écrites. Et donc après, il y a un choix par rapport aux événements.
D'accord. Ok. Vous êtes toujours d'accord entre vous ?
Oui, oui. toute façon, on est tous des sportifs quand même. Donc, ouais, on voit à peu près le nombre des personnes qui sont, très, qui sont référents et qui, oui, nous disent vraiment qu'il faut aller là. Et il faut savoir aussi qu'on récompense les bénévoles.
Oui, oui, non, mais bien sûr.
Il n'y a pas que du sportif, il y a aussi des bénévoles.
D'accord.
Donc on,
oui, bien
on
sûr.
On s'aperçoit des fois qu'il y a des gens que, qui ne sont pas connus de nous-mêmes,
bien sûr,
qui ont 30, 40 ans de bénévoles dans des associations. Je trouve ça.
Et les différentes catégories, c'est vous qui les avez,
ouais,
choisies, l'arbitrage,
voilà,
le meilleur.
Voilà, voilà. On a ben, comment je pourrais dire, on demande, voilà, par catégorie, on a un listing et on demande à tous les comités, toutes les ligues. Le listing, qu'est-ce que vous pouvez nous mettre là, 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 parce que tout le monde, tous les comités et ligues n'ont pas ce jour-là une personne à mettre sur chaque, mm-hmm, dans le listing. Donc c'est un choix qui est fait déjà au départ par, par le comité et la ligue.
Oui.
Et après nous, au sein du SDOS, la commission détermine.
Alors il faut être vraiment au-dessus de la mêlée, il ne faut pas avoir ces sensibilités sportives. Hein.
Non, non, mais non, et justement, non, c'est ce qui est bien, c'est que dans la commission, il y a plusieurs, sports qui sont,
oui,
représentés.
Oui.
Donc en fin de compte, ça se passe bien quand même.
Oui,
on,
oui,
est tous quand même là pour honorer quand même le meilleur sportif et, les meilleurs
bénévoles.
Et
s'il y a un désaccord qui tranche ?
Il y a un président.
Ouais. Donc c'est lui qui a la voix,
oui,
qui compte,
mais
nous,
bon,
dirons-nous.
Oui, oui, mais donc, franchement, ça ne s'est jamais passé. Depuis que je suis dans cette commission, ça fait 5 ans déjà, on arrive quand même à s'entendre sur, sur le choix. Sur
alors
le choix.
Cette soirée était sympa, il y a eu quelques personnalités élues qui étaient là. Bon, ils ne sont pas restés très longtemps parce qu'ils ont d'autres combats donc, actuels à mener.
Hein. Oui, tout à fait.
Et puis il y avait aussi un parrain qu'on va entendre tout à l'heure, c'est Riyad Salem.
Oui.
Ouais, hein, toujours un fidèle, des,
oui,
fidèles.
Toujours fidèle, et puis c'est une personne qui, à chaque fois qu'on lui demande de venir, il est là.
Oui.
C'est vraiment excellent, et on trouve que c'est une très belle personne.
Alors, tu vas nous donner donc la liste des lauréats. Quel était donc le premier? Il y en a eu 15, hein, j'ai regardé la,
ouais,
liste.
Oui, c'est 15. Ça, on a 15 personnes. Donc le premier, c'était le trophée de la jeune, du jeune arbitre. Voilà.
Oui.
C'est Mélodie Bouix de l'UNSS.
D'accord, ok, oui, oui. Ouais.
Mmh. Après, on a eu le trophée du jeune arbitre aussi, c'est au badminton.
Alors, justement, tu vas donner le nom ?
Eloane Moreau.
Voilà, bon, on va l'écouter, donc Eloane Moreau, donc, récompensé
très
comme
jeune
meilleur arbitre pour, j'allais dire, l'année 2025.
2025.
Jeune arbitre récompensé ce soir, donc dans cette soirée des meilleurs sportifs parisiens. Eloane, d'abord, quelle impression ça fait ?
Eh ben, je suis très surpris d'avoir reçu ce prix, mais je suis aussi très fier et très content d'avoir reçu ce prix pour ma passion qui est le badminton et l'arbitrage. Et j'espère pouvoir progresser dans ce monde de l'arbitrage.
Alors, pourquoi l'arbitrage quand on est si jeune ?
Eh ben, c'est assez étonnant, mais je jouais au badminton, mais j'ai découvert l'arbitrage au travers de l'école. Et ça a été une vraie révélation pour moi, et c'est un autre côté du sport, c'est différent, c'est une autre vision, mais c'est une vraie passion, c'est un engagement, c'est aussi voir du haut niveau, parce que ça permet un accès aussi à voir des grands joueurs, des top 100 français, etc. Et c'est très lucratif aussi, hein. C'est du beau jeu, c'est l'esprit sportif de haut niveau. Et donc moi je suis très content, voilà, je me suis dit je serai jamais pro, autant arbitrer les pros.
Est-ce que c'est difficile d'arbitrer même dans le badminton ? Est-ce qu'il y a parfois des points litiges ou quelques contestations ?
Bah écoutez, bien sûr, moi j'arbitre en National 2 et effectivement, bien sûr, il y a forcément des points litigieux, des joueurs qui contestent la décision. Ce qui est souvent dur aussi, c'est la décision de ligne, on n'a pas forcément de juge de ligne. Donc même si c'est un petit terrain, ça reste dur, on est sur la chaise, mais voilà. Normalement, c'est quand même un sport qui reste respectueux, c'est différent du foot, je dirais, mais c'est une autre vision, c'est respectueux, c'est du bon jeu, c'est avec l'esprit sportif, voilà.
Et dans l'arbitrage, vous souhaitez aller le plus loin possible, pourquoi pas un jour aller être arbitre de compétition internationale ou même peut-être olympique, qui sait ?
Et bah du coup oui, c'est une vraie passion, et moi mon objectif c'est d'arriver au top mondial, d'arbitrer les JO, les championnats du monde. Donc c'est vraiment vraiment un parcours que j'ai envie de faire, de devenir arbitre au badminton de haut niveau. Oui oui.
Dernier petit mot, vous avez un sport qui devient de plus en plus médiatisé. Ça c'est bien, à travers d'abord les bonnes performances aussi, hein.
Oui, c'est vrai, ça se voit sur les dernières années, même si ça fait pas très longtemps que je fais du badminton parce que je suis encore jeune. Mais c'est vrai que ça se voit que le badminton va sur une très bonne voie. Le badminton a de plus en plus de médias avec l'équipe. Paris a reçu les championnats du monde cette année, 2025. On a eu des médaillés de bronze, Tom Jiquel, Daphine Dadru. C'était une très belle expérience, j'y étais. Et de voir.
Popov qui a gagné le Masters.
Et Popov qui a gagné les BWF Masters en Chine en décembre. C'est vraiment une fierté de voir des joueurs qui brillent, mais aussi la jeunesse qui arrive bientôt. Avec Thibaut Gardon ou d'autres grands joueurs aussi, et l'arbitrage qui se tient aussi. On a deux arbitres BWF français, bientôt plus. Voilà, moi, c'est une grande fierté. Et je trouve que oui, effectivement, on devient plus médiatisé. Le badminton va vers la bonne voie. C'est une vraie joie pour moi.
Merci. Voilà, c'est bien, Philippe, de voir des jeunes comme ça qui s'investissent sur l'arbitrage.
Oui, j'ai trouvé ça extraordinaire. On manque de jeunes arbitres. Oui, c'est la relève, et puis il est plein d'espoir, il se voit au JO et je lui souhaite plein de bonnes choses.
Alors ensuite, le troisième lauréat, c'était qui?
C'était Amaliel Sidevaucher de l'athlétisme. Elle fait de l'athlétisme, oui. Elle entente PUC Stade Français, elle a été sélectionnée oui. Équipe de France... Festival olympique de la jeunesse, il y a des quatrièmes meilleures performances en
oui, U18. Elle a reçu quel prix?
Alors elle a reçu le prix du trophée du meilleur espoir.
Ah c'est bien, oui, c'est vrai, je me rappelle de sa montée sur le podium. Ensuite donc quatrième lauréat ou lauréate.
Quatrième lauréat, c'est Samuel Dacquesson du Tennis Club de Paris. Il est champion de France en simple et en double chez les 13-14 ans. Ouais, et cinquième ouais. Au Champ d'Europe.
Et lui, qu'est-ce qu'il avait reçu, quel trophée?
Et lui, c'est toujours pareil, le trophée... du meilleur espoir, parce qu'on fait toujours garçon ouais. Et
c'est
fille.
Un peu comme les Césars, quoi.
Voilà.
Meilleur espoir féminin.
Il faut féminine. Pas oublier nos
féminines. Ouais, ouais, ouais. Voilà, un petit peu comme les Césars.
Je suis très...
Ouais. Ensuite
voilà. Donc, la cinquième, c'est Anne-Marie Condoyer, de la Fédération oui. Française internationale du sport français, trophée oui. Du mérite. D'accord. Elle a travaillé pendant 20
alors,
ans.
Alors mérite, ça veut dire quoi? C'est parce qu'elle a beaucoup œuvré pour le sport.
C'est une bénévole. Oui, c'est une bénévole. Mm-hmm. Elle a travaillé 20 ans au cabinet du maire.
D'accord.
Et après, elle est passée 8 ans à la Fédération de
France. Ah oui, je me souviens. Elle parlait du maire de Paris, Jacques Chirac. Oui, je me souviens.
Elle lui descendait.
Oui, je me souviens de l'anecdote quand elle est intervenue au micro pour chercher sa récompense. Oui.
Donc, elle avait le trophée du mérite. Et en garçon, le trophée du mérite, c'est Daniel Ramet de randonnée pédestre. C'est le président du comité de randonnée pédestre
oui,
depuis 22
ans. Avec qui j'ai conversé, il fait des marches dans Paris, on ira marcher dans Paris.
Il a créé la Panamée.
Ouais.
Mm-hmm. Voilà pourquoi ça sert aussi les trophées.
Ouais,
on apprend des choses.
Bien sûr. Mm-hmm. Ensuite.
Donc après, le trophée de la meilleure sportive,
oui.
C'est Anne Tran du Badminton Club de France.
Qu'on connaît bien, qu'on a vu d'ailleurs en interview.
Et qui a laissé, badminton ouais, également. Ouais.
Et qui a laissé une belle petite vidéo. Hein.
Oui, elle ne pouvait pas être là parce qu'elle était en championnat de France.
Oui, puis elle vit à La Rochelle maintenant.
Voilà. Tout à fait. Le huitième, c'est le trophée du meilleur sportif, c'est Arthur Côte, gymnaste.
Alors justement, on va écouter donc ce meilleur gymnaste, Arthur Goutte, qui nous parle donc de son club. Je crois que c'est l'un avant, c'est ça?
Oui, hein, tout à fait.
Allez, on y va. Alors je suis avec Arthur Goutte, donc qui vient d'être élu meilleur sportif. Ça fait quoi comme impression?
Franchement, je suis vraiment content. Je pensais également ne pas pouvoir avoir ce trophée. C'est quelque chose qui est très gratifiant. En tout cas, c'est un sport que je fais depuis très longtemps, 15 ans maintenant. Donc, presque 15 ans, mais donc c'est formidable de pouvoir en tout cas remercier et d'avoir ce trophée aujourd'hui.
Alors on va rappeler que tu fais un sport quand même très exigeant, très difficile, de la gymnastique quand même.
Oui, donc c'est pas un sport qui est forcément énormément représenté à Paris, même si on a déjà deux clubs, mais donc c'est un sport qui se différencie plus ou moins des autres sports, donc il y a une note bien sûr de propreté, de performance, de difficulté. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve moins, qu'on retrouve dans d'autres sports, mais là c'est vraiment très spécifique et centré autour de...
On sait que c'est un sport qui demande beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'exigences. Tu es étudiant, tu fais des études en parallèle. Comment on arrive à tout concilier?
Alors c'est vraiment, c'est quelque chose qui, puisque je fais du sport depuis très longtemps et j'ai toujours réussi à lier avec l'école, c'est quelque chose avec... tu grandis avec en quelque sorte, donc c'est pas quelque chose qui y prend du temps forcément. Faire du sport, ça prend du temps dans ton emploi du temps avec le
combien de temps par semaine tu fais d'entraînement?
Je fais en terminale maintenant, j'en fais à peu près 9 heures par semaine et j'essaye de maintenir un rythme, même si c'est pas tout le temps possible de faire autant. Mais voilà.
Il n'y a jamais de petits moments de lassitude, de petits moments de ras-le-bol ?
Bah, ce qui est assez bien, en tout cas avec la gymnastique dans mon cas, c'est qu'il y a énormément d'éléments différents. Donc, tu peux toujours travailler sur des éléments variés, que ça soit surtout qu'il y a 6 agrès. Donc, quand tu es blessé, tu peux toujours travailler sur des éléments qui favorisent les appuis ou les bras. Tandis que quand tu es blessé au niveau du haut du corps, tu peux toujours travailler d'autres agrès. Hein, et sur ces mêmes agrès, il y a des centaines d'éléments à faire. Donc, on n'est jamais à court d'idées.
Alors, donc, ton ambition, c'est continuer comme ça, à te faire plaisir, ou alors tu vises quand même le seuil un petit peu plus haut?
Bah, je pense que je vais quand même continuer à me faire plaisir, parce que l'année prochaine, bah, je vais aller, en classe préparatoire. Donc, ça va être compliqué de lier, mais dans 2 ans, quand je pense que je serai en école d'ingénieur, là, je souhaite vraiment reprendre à bon niveau, en tout cas me donner à fond. Mm-hmm. Ça serait l'idée.
Tu veux nous rappeler un petit peu ton club, hein, nous dire comment vit ce club sur Paris?
Donc je suis à En Avant de Paris, donc c'est un club qui est à côté de la Tour Montparnasse, à Edgar Quinet. Et donc je suis rentré en 6e dans ce club, j'avais fait 2 autres clubs auparavant. Et c'est vraiment, en tout cas personnellement, moi c'est un club qui m'a super bien accompagné. Il y a des très bons entraîneurs et justement je remercie notamment Sandro et Gabriel, qui sont mes entraîneurs, qui m'ont beaucoup... qui m'ont permis de m'améliorer, en tout cas en général.
Donc c'est un club que tout le monde peut rejoindre, hein. Venez faire de la gym dans ton club.
Oui, en tout cas ça serait une bonne idée, c'est assez ouvert, il y a plein de catégories, c'est pas forcément que de la performance, et c'est un sport qui est assez facile d'accès en tout cas.
Merci en tout cas. Voilà, il est bien ce jeune, hein, en avant de Paris, là, dans le 14e. Là,
il est très bien, et puis j'ai oublié de lui dire quand même qu'il est champion de France junior.
Eh oui, c'est ça, beaucoup d'humilité, puis voilà, il traverse les époques comme ça, avec sérénité. Allez, le suivant, ou la suivante.
Pardon. Alors la suivante, ça va être Mélanie Peters, oui, du football arc-en-ciel. Trophée de la jeune dirigeante.
Oui, trophée de la jeune dirigeante. Hein. Ensuite, donc...
Alors, je continue parce que là, on en a eu quand même.
Oui,
jeune dirigeant.
Oui.
Johnny Delfort, c'est un judoka. C'est lui qui a fondé le Kokyo Club de judo.
D'accord. Ensuite, 11e lauréat.
11e lauréat, trophée de l'arbitrage, toujours.
Oui.
Farah Debbour, du tennis.
Oui.
Paris, du but qu'il est.
Ensuite, donc, tu vas nous donner le 12e.
Clément.
Tanis.
Tanis, rugby, voilà. Ouais.
Lui aussi trophée de l'arbitrage. Alors ensuite un trophée qui a beaucoup plu, je crois, au président Christophe, oui, Norsini, hein. C'était le 13e trophée, hein.
Je pense, voilà, quand même ce trophée il a touché beaucoup de personnes,
ouais.
C'est le trophée du coup de cœur. C'est l'équipe sportive partagée de l'UNSS,
ouais.
C'est des jeunes qui, ouais, sont en difficulté visuelle.
Ah oui, je me souviens.
Qui étaient venus avec leur comment, je me rappelle plus le terme, des gens qui les accompagnent, c'est,
oui,
ils ont un terme.
Oui, des accompagnateurs.
Des accompagnants, ouais, ouais, ouais. Qui font de l'athlétisme.
Oui, c'est
et
ça.
Franchement, c'est des jeunes qui avaient 14-15 ans. C'était, ouais, ça a touché beaucoup de monde.
Alors,
moi,
si,
le premier.
Ouais, s'il y a un trophée qui a plu à Christophe Norsini, je suis sûr que le 14e t'a plu.
Le 14e, ouais, c'est le trophée. Alors, le 14e,
de la meilleure équipe.
De la meilleure équipe. C'est le Paris Sport Club de le handball.
Oui, le senior féminine.
Senior Nine.
Et donc, championne de National 2, qui sont montées en National 1. Et on va écouter donc Nolwenn, la capitaine de cette équipe. Alors, je suis avec une capitaine heureuse. Nolwenn, la capitaine d'un club de handball de Paris, elle va elle-même nous en parler, qui vient d'être récompensée meilleure équipe de l'année.
Oui, c'est ça. L'année dernière, on était en National 2. Et on est monté donc en National 1, une montée assez inattendue parce que l'objectif de base c'était quand même le maintien. Et surprise à la fin de l'année sur le dernier match, dernière seconde, les 10 dernières secondes, on gagne, et ce qui nous permet de monter en National 1, donc un niveau...
qui commence déjà à être sérieux.
Oui, exactement, c'est comme dit notre coach, c'est l'antichambre des pros, donc c'est quand même un très gros niveau, voilà.
Qu'est-ce qui a fait la force de votre équipe pour monter? C'est ce collectif, cette bande de copines?
Ouais, c'est ça. C'est la diversité aussi des filles, la différence d'âge. Il y a des filles d'expérience, des filles beaucoup plus jeunes qui arrivent qui sont bourrées de talent. Donc c'est vraiment une émulation collective qui nous permet de monter.
Alors parlez-nous un peu de votre club. Dites-nous où il se situe. Et ça pourrait peut-être susciter des vocations.
Ouais, alors le Paris Sport Club, c'est un club qui regroupe 3 sports, le triathlon, l'athlétisme et le handball, si je ne dis pas de bêtises, qui est situé à côté de Nation. Donc nous, dans le 20e arrondissement, nous, on s'entraîne à côté de Nation également, mais on a d'autres gymnases de temps en temps. Et voilà, il y a toutes sortes d'équipes, il y a de tout âge. Je crois que ça a commencé au baby hand jusqu'au senior, où on a 4 équipes féminines et 5 équipes masculines de handball.
Donc le handball marche bien. C'est vrai que c'est un sport qui est maintenant hyper médiatisé grâce aux bons résultats de nos équipes de France, hommes et femmes.
Oui, exactement. Je pense que bon, malgré les résultats moyens des garçons, les filles continuent de briller quand même. On brille aux Jeux Olympiques, elles ont quand même été jusqu'en finale. Donc je pense que ça a donné une bonne visibilité et ça donne une bonne visibilité. Enfin, depuis quelques années déjà, les deux équipes sont au sommet. Petite bête de régime pour les garçons, mais ça va revenir, on espère. Mais très bonne visibilité. Et voilà, donc on est également le club le plus avec le plus de licenciés d'Île-de-France, peut-être de France. De France, on doit être le troisième peut-être. Donc c'est vraiment un très gros club parisien.
Et donc si vous franchissez un palier, vous l'avez dit, c'est du haut niveau, comment on s'entraîne? Il va falloir donc maintenant doubler les doses, il va falloir peut-être faire un entraînement encore plus fort, plus conséquent.
Exactement, il y a plus de concentration à l'entraînement, il y a plus d'entraînement également. On a mis en place des séances de musculation aussi, c'est un peu indispensable à ce niveau-là. On reste quand même des choses qui ne sont pas payées et c'est assez rare à ce niveau-là. Je pense qu'on est la seule équipe de notre pool à ne pas être payée, donc c'est bien et tout le monde continue de s'investir. 3 entraînements par semaine plus le match le week-end, beaucoup d'investissement, mais c'est cool et beaucoup de rigueur à l'entraînement.
Bon, bah, très bien, bah, pour le mot de fin, allez donc vous encourager, il faut y aller, faut aller à vos matchs.
Voilà, venez au gymnase de Vignoles, Rudé, à côté de Nation. On joue pratiquement tous les week-ends. Voilà, et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram.
Merci.
Merci.
Voilà pour Nolwenn, donc là c'est dans le 20e. Hein.
C'est dans le 20e, voilà. C'est un gros club, ils ont 550.
Paris Sport Club, ouais, c'est incroyable.
500
quand même,
licenciés, hein. Et c'est une... C'est la première fois qu'une équipe de Paris monte en N1 et franchement, je retire mon chapeau, surtout qu'il n'y a pas du tout de moyens financiers.
Ouais. Allez, le dernier
trophée,
c'est le trophée
de la meilleure équipe aussi.
Tu vas pouvoir arranger ta gorge après.
Ça va aller. Ouais. Ils sont champions de France U15 de basketball. C'est oui. la corporation territoire et club du PEPBA, ouais. Garçon.
D'accord. Voilà, donc pour les distinctions de l'année 2025, ouais. On remet ça naturellement donc, en 2026. Et puis, il y avait, je l'ai dit, un parrain qui nous a accompagnés, qu'on croise régulièrement. On va finir avec lui, c'est Riyad Salem, hein,
ouais,
le champion paralympique français. Et vous allez voir, Riyad, il a un projet actuellement. Il est en train de travailler avec les gens de France Travail. Donc, il nous en parle et il explique un peu plus.
Alors, Riyad Salem, présent ici, cette belle journée qui récompense le sport parisien.
Eh bien, écoute... C'est toujours hyper agréable de revoir un peu tous les acteurs du sport parisien. Ça fait plaisir, surtout sur une période un peu, comment dirais-je, complexe, avec en même temps plein de belles choses, puisqu'on est dans la période des Jeux, mais on a la période des élections. Donc tu vois, il y a un double sentiment. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir qu'on voit un petit peu tout. Et ces jeunes champions-là qui ont été, j'ai trouvé ça génial. Ces équipes-là mixtes de personnes aveugles, du moins d'athlètes aveugles, des étudiants et tout. Non, mais ça me fait chaud au cœur. En plus, ce n'est pas n'importe quel lycée, c'est le lycée Buffon, tu vois. C'est un des grands lycées de Paris. Donc,
En tout cas, quel bilan tu fais de ces 6 ans de mandature? Bon, on sait que le sport est pratiqué à Paris, mais il y a des gros problèmes d'infrastructure. Quel problème?
Il y en a toujours eu, ça. Il y en a toujours eu. On sait que le sport a été une grande priorité là avant les Jeux, qu'on voit que c'est que la dynamique s'essouffle, mais qu'il y a les esprits qui ont été marqués. Mais oui. C'est sûr que on peut légitimement avoir un peu de déception, si ce n'est plus.
Oui. Pour l'après. Et toi personnellement, donc engagé dans un nouveau défi, hein?
Là, je suis engagé à France Travail. Tout ce qui est insertion par le sport. Et c'est vraiment passionnant. Parce que depuis des années, je me bats pour que les gens retrouvent de la dignité, retrouvent du boulot, retrouvent des choses. On les accompagne à travers le sport. Et là, on arrive dans une maison qui a une force de frappe incroyable. Et ça, c'est extraordinaire de savoir qu'on est capable aujourd'hui d'activer sur tous les territoires une dynamique pour que les gens qui font du sport, qui ont le goût de l'effort, puissent retrouver un emploi. Donc ça, c'est génial. Et là, je suis avec trois personnes de France Travail. Tiens, voilà, mon collègue avec qui j'étais cet après-midi sur les équipes pro. Donc on essaye vraiment de tisser des liens avec des petits clubs amateurs, des grandes équipes, des entreprises, des PME, PMI, tous ceux qui ont envie de mettre de la bonne volonté pour remettre le sport et en même temps le goût de l'effort et le travail et donner une belle dynamique dans ce pays, quoi.
Et ça va malgré les jeux, il y a une bonne image, les portes s'ouvrent justement.
Ben, les portes s'ouvrent, c'est la mission de France Travail sur le sport a été créée pendant les jeux. Les clubs s'engagent, il y a eu vraiment cette dynamique. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que ça perdure. Ça veut dire que ce n'est pas qu'un héritage, c'est une réalité qui se développe. On fait fructifier ce capital qu'on a eu pendant les jeux. Et ça augmente avec tout un tas de dispositifs qui est excellentissime, quoi. Ça amène vraiment une super dynamique et on voit les clubs. Ça leur permet aussi d'avoir un petit peu de soutien financier puisqu'on voit que les caisses de l'État se vident. Mais on trouve des moyens quand même de pouvoir leur donner un petit peu de sous. Et en même temps, en échange, ils font un boulot extraordinaire pour que les personnes qui sont en recherche d'emploi puissent trouver de l'emploi dans leur univers qui est le sport.
Merci en tout cas, Riyad.
Ben, merci à vous. Et faites du sport, pas la guerre.
Oui, malheureusement, pensez pas si bien dire, hein, Riyad. Malheureusement, c'est d'actualité.
Je voudrais dire juste une chose. Je voulais remercier.
D'ailleurs, il viendra en parler, hein, Riyad. Il nous a promis avec les gens de France Travail de venir parler de ce qu'il fait.
C'est très fort. Ouais. Et je voulais quand même remercier tous les partenaires qu'on a eus qui nous ont aidés à faire cette soirée.
Oui, bien sûr, sans eux. Un petit mot avant de passer au journal des sports. On parlait du hand, on en a parlé hors antenne il y a quelques semaines. La reconstruction, elle va être plus longue que prévu cette fois-ci pour les hommes. Parce qu'il y a toujours des phases où on reconstruit un petit peu, mais non, on a une équipe de France qui revient compétitive rapidement. On va quand même rappeler que c'est l'équipe qui, au niveau du sport national, l'équipe nationale est la plus titrée. Hein, oui. Trois fois championne olympique, six fois championne du monde, quatre fois championne d'Europe. Les femmes, elles, une fois championne olympique, trois fois championne du monde et une fois championne d'Europe. C'est quand même sport le plus titré. Mais là, il semble que...
Oui, on marque
un entraîneur étranger qui arrive déjà.
Oui, c'est la première. Oui. C'est après Douchebaïev. Bon, Douchebaïev, tout le monde le connaît. Il a gagné deux fois la Champions League avec Sud-Arial. Oui. Ça a été un très très grand joueur. Il a été meilleur joueur du monde. Donc là, après, il est parti à Kiev.
Donc Costantini, Onesta, voilà, des gens qu'on il est dans la lignée.
Il est dans la lignée. Bon, maintenant, il est à Kielce. Il a quand même fait des beaux résultats à Kielce. Il connaît quand même des joueurs français qui sont à Kielce. Donc je pense que... Et est-ce que c'est pas... Moi, je suis content qu'un étranger arrive.
Oui, oui.
Parce que ça va peut-être amener un peu plus de rigueur. Et
c'est
puis
une grande
autre
première,
vision.
Pourquoi l'équipe de France, ça manque de rigueur?
Je pense qu'à un moment, on s'aperçoit quand même que maintenant, il faut de la rigueur dans le haut niveau. Si on n'a pas de rigueur, on n'y arrive pas. Et je pense qu'une personne étrangère, déjà, elle ne sera pas connue. Elle est connue par son nom, mais ça va changer complètement la dynamique, ça va changer le modèle de jeu, les modèles d'entraînement. Et je pense que ça peut être une très bonne chose pour le handball français.
Oui, oui, oui. Donc t'es pas trop inquiet, quoi. Parce que je t'avais vu au lendemain de la finale, la finale du championnat d'Europe, tu revenais, je crois, du Danemark.
Du Danemark, oui.
Et t'avais pas l'air très optimiste.
Non, j'avais pas trop
d'optimisme. Tu me dis, là, on rentre dans une période un petit peu compliquée.
Non, mais la période...
Et pendant très longtemps. Alors que ça s'est toujours renouvelé dans le hand.
Mais
ça n'a jamais duré trop longtemps.
Il faut reconnaître quand même que, bon, on a des très beaux joueurs. Le problème, c'est qu'on a des super joueurs, mais on joue pas ensemble. On joue pas ensemble et là il y a quelque chose à faire.
Oui, c'est le rôle d'un entraîneur.
Oui, ouais, tout à fait.
Mais ça c'est le rôle d'un entraîneur. Bon,
ouais, voilà. Mais bon, il est pas arrivé. Moi j'enlève pas c'était un très très grand joueur. Maintenant, des équipes de jeunes, il faut que ça se renouvelle. C'est un vrai travail. Moi je pense
Il faut peut-être des fortes personnalités quand même. Costantini, Onesta.
Oui, mais bon.
C'était des gros joueurs.
Voilà,
comme
non, c'est ça. Et je pense que il faut sortir des serrailles. Il y a les équipes étrangères. Hein. On s'aperçoit que toutes les équipes étrangères, de plus en plus, c'est
que des Norvégiens, des Islandais qui viennent entraîner des équipes étrangères. Et pourquoi pas nous ?
Didier Dinard, c'était une grosse tête aussi. Hein, quand on voit le résultat.
Didier Dinard, ça s'est pas très bien passé en plus.
Justement.
Ça Ivry, pas le tout d'avoir terminé.
Ça s'est mal terminé.
Ça s'est mal passé, mais là, il a été avec la Macédoine.
Oui. Et il est qualifié. C'est une honte absolue au passage.
Ok, mais il est qualifié pour le championnat du monde.
Ouais, c'est vrai.
C'est comme les entraîneurs de foot.
S'il mettait la même énergie à Ivry, je pense que Ivry se serait maintenu
en Ligue de Star League. Je ne sais pas si c'est passé exactement Ivry.
Histoire d'arrêt de travail.
C'est
compliqué. Hein.
C'est un fiasco total. Sur le plan humain, je précise.
C'est pour ça que je dis des fois un entraîneur qui n'est pas du sérail du pays, est-ce que c'est pas bien ? Il faut voir.
C'est un débat qu'on peut porter sur tous les sports, finalement.
Tout à fait.
Non, mais pour Luan, c'est une grande première.
Oui, tout à fait, c'est la première fois. Ouais, c'est la première fois. Bon, s'il y en a eu un, mais dans les années. Au handball à 11.
Ah oui, c'était à une autre époque. Juste un petit mot, t'as suivi les jeux ? C'était pendant les jeux. T'a plu ? Tu t'es régalé ? Comme nous, t'as kiffé ?
J'adore, parce que moi, j'adore le ski déjà au départ. Oui. Je vais souvent au ski, j'ai super.
Tu peux retrouver des interviews en podcast. Bon, pas celle du 16 février, malheureusement, mais tu peux retrouver. On a eu des gens du ski qui sont intervenus. Tu peux retrouver donc.
Non, mais je vais bien émission, écouter. Non, mais c'était des beaux jeux.
Oui, sympa. Allez, Théo. Eh bien, le journal des sports, on va commencer. C'était la reprise de la saison de moto.
Exactement,
c'est reparti.
Philippe. Ce journal des sports avec le premier Grand Prix de cette nouvelle saison de MotoGP. Alors en Thaïlande, c'est l'Italien Marco Bezzecchi qui s'impose et signe sa 7e victoire en carrière. À noter que le tenant du titre, Alex Marquez, a abandonné après une crevaison en fin de course.
Il a crevé, on a bien vu.
En toute fin de course. Suite de la Coupe du Monde de ski alpin à Garmisch en Allemagne, Marco Odermatt s'impose sur la descente devant ses compatriotes Monet et Rogentin.
Et le dire Super qu'il n'a pas gagné une médaille d'or au jeu.
Exactement.
C'est souvent ça.
Alors qu'il gagne tout le temps. Le Super G a quant à lui été annulé à cause du brouillard et à Sold, l'Allemande Emma Hacker s'impose sur le Super G le samedi. Sofia Goggia remporte l'épreuve le lendemain devant la même Allemande.
Il sera reporté à Courchevel.
Exactement. En cyclisme, maintenant, le Français Paul Sexas remporte la Faune Ardèche classique et crée la sensation en s'imposant en solitaire. Sur le Drôme classique, Romain Grégoire s'impose quant à lui au sprint face à l'Américain Matteo Jorgensen au terme d'une course très disputée.
C'est surtout qu'il a gagné à la Pogacar, 47 km d'échappée.
En solitaire. Petit mot de tennis de table, les frères Lebrun redeviennent numéro 1 mondiaux en double. Alexis et Félix Lebrun se sont imposés au grand match de Singapour en duo. On passe au rugby et la 18e journée de Top 14. Le Stade français s'impose à domicile face à Perpignan 42-21. Le Racing 92 s'incline 41-17 sur la pelouse de Montpellier. Alors au classement, le Stade français est 6e et le Racing 92 8e. En basket, la France bat une nouvelle fois la Hongrie et valide sa place au prochain tour des qualifications pour la Coupe du Monde 2027. Une semaine après sa victoire 74-71, les Bleus ont de nouveau dominé la Hongrie 98-79. Et en Euroleague, 25e journée, le Paris Basket s'impose à domicile contre le Real Madrid 98-92. Monaco s'incline 84-82 face au Virtus Bologna. Défaite aussi malheureusement de l'ASVEL 79-78 contre le Panathinaikos. Au classement, Monaco est 9e devant Paris 16e et l'ASVEL lanterne rouge. On passe maintenant au handball, 12e journée de Ligue des Champions. Victoire du HBC Nantes 33-26 face à Kolstad et qui les Nantais conservent leur 5e place du groupe A. Dans le groupe B, le PSG est 5e aussi après sa victoire 29-28 sur Szeged. Dans le championnat, victoire du PSG 34-27 face à Dijon pour le contre de la 18e journée. Les Parisiens sont premiers au classement, égalité de points avec le HBC Nantes, encore eux. 23e journée de championnat masculin en volley. Le Paris Volley s'impose 3-1 à domicile face à Montpellier. De son côté, le Plessis s'incline 3-7-0 à Toulouse. Au classement, les Hiboux sont 8e tandis que le Paris Volley est 11e. Et dans le championnat féminin, 23e journée également, et défaite de Levallois Paris 3-1 face à Mulhouse. Les Mariannes sont 3e à égalité avec le Canet. Et enfin, on referme ce journal des sports par une petite annonce. On connaît la date du prochain combat de Bakary Samaké. Notre Français affrontera l'Américain Ermal Adribeage à l'Adidas Arena le 25 avril prochain. À noter que Tony Yoka combattra le même soir face au Britannique Lawrence Okoli.
Voilà, et j'ai dit à leur attaché de presse, Baptiste Despois, qu'on sera là.
On sera présent, évidemment.
À noter donc le 25 avril à l'Adidas Arena. Bon, du coup, comme tu n'étais pas là pendant quelques semaines.
Ouais.
T'as doublé la mise pour le boulot.
On va dire que
j'ai plusieurs coups de cœur et coups de gueule.
Plusieurs coups de cœur et coups de gueule à vous donner sur cette dernière semaine sportive.
Allez, vas-y.
On va commencer par les coups de cœur parce que clairement les sports de raquette, c'est mon domaine, c'est mon dada et il s'est passé beaucoup de très très belles choses. Comme l'a dit tout à l'heure le journal des sports. Je vais commencer par le badminton. J'ai commencé par le badminton, donc l'Open d'Allemagne, le Super 300 et notamment le simple messieurs qui a donné droit à une finale 100% française entre les frères Popov, Christo d'un côté, Thomas Junior de l'autre. Donc finale 100% française et victoire maîtrisée, 21-16, 21-15 de Christo, une victoire sans conteste du 5e mondial.
Le petit chouchou à Vanessa.
Bah
non, mais il faut parler au micro, parce qu'on t'entendra pas sinon, Vanessa. On t'entendra pas sinon.
Je les aime beaucoup, les frères Popov, et là c'était intéressant parce que c'était un match particulier entre frères. Donc évidemment, j'ai pu lire dans l'équipe que évidemment là, il est parti, mais sans non plus être avec une réaction assez incroyable parce qu'évidemment c'est son frère, mais évidemment ça fait partie du jeu, voilà.
Ouais, et puis ce qui est bien, c'est que il y en a un qui est en train de mettre en place une véritable hégémonie, et c'est pas forcément le plus âgé, c'est ça qui est assez drôle. En tout cas, Christo, lui, avec cette victoire, s'inscrit dans la lignée de son titre au World Tour Finals de la saison passée. Mais ce résultat aussi, de manière plus globale, prend la suite du titre européen obtenu par l'équipe avec l'équipe de France quelques jours plus tôt contre le Danemark. Donc voilà, je vais vraiment mettre cette finale de badminton à l'Open d'Allemagne en avant. À savoir que la prochaine étape, c'est cette semaine, c'est le All England, donc un Super 1000, donc la plus haute catégorie. Et cette semaine, donc ça aura lieu cette semaine. Et on retrouvera aussi l'autre prodige du badminton français, à savoir Alex Lanier.
Oui.
Donc voilà, ça c'est mon premier coup de cœur, on va dire.
Et en plus, on en avait parlé, je crois, il avait fait la une de l'équipe au mois de décembre.
Oui,
ça c'est fabuleux. Ouais. La première une de l'équipe, je crois que ça devait être la première une sur le badminton.
Clairement, sachant que ce sera la première et pas la dernière, une génération dingue autant chez messieurs que chez les dames. Donc je pense qu'on va entendre parler du badminton de plus en plus dans les années à venir.
Les équipes ont fêté leurs 80 ans d'ailleurs.
C'est ça.
Et c'est ce qu'on avait vu en mouillon de badminton quand même, avec notamment la médaille de bronze de la paire mixte d'Elru Jiquel. On a vu quand même l'équipe de France en belle forme. Donc c'est encourageant pour la suite, y compris la relève.
Tout à fait. Deuxième coup de cœur pour le coup, pareil, on va rester dans le domaine des sports de raquettes, et notamment avec le tennis de table, puisque on a eu la finale du double messieurs, du WTT à Singapour, avec les frères Lebrun qui se sont imposés en 3-7 en finale, 11-6, 11-6, 11-7 face à la paire Shidong-Yuzeng. Il faut savoir que cette paire chinoise était mieux classée que la paire française avant cette finale. Donc une victoire en maîtrise totale, c'est ça qui a marqué énormément de monde. C'est une victoire en maîtrise totale de la part de la paire française. Les Lebrun, grâce à cette victoire, retrouvent la place de numéro 1 mondial. Et ça n'est pas pour nous déplaire quand même. Parce que quand on regarde bien le classement mondial, en simple pour commencer, on a 5 Français dans le top 25 avec 1 dans le top 10, à savoir Félix. Mais surtout avec cette première place en double, ça augure de très très belles choses pour le futur. Donc je rappelle vite fait sur les 5 Français qui sont présents dans le top 5, Félix est 6e mondial. Le classement est actualisé aujourd'hui, ce lundi. Donc 6e place pour Félix. Alexis Lebrun, lui, il est 14e. Simon Gauzy, 18e. Thibaut Poré, 23e. Et Flavien Coton, 25e.
Oui, c'est vraiment une vraie émulation.
Il y a une émulation complète qui est en train de se mettre en place. Même Simon Gauzy, qu'on a longtemps considéré comme le seul, le dernier des Mohicans, si je puis dire, il y a une très belle émulation qui l'embarque avec lui et je trouve ça exceptionnel. Donc ça, c'était pour les coups de cœur. Là, cette fois-ci, je vais m'énerver parce que les coups de gueule... Le coup de gueule, franchement, moi, ça me... J'en suis triste d'avance. Ça concerne la MotoGP. Oui. Justement, avec le Grand Prix de Thaïlande. Donc oui, il y a eu la reprise, la MotoGP.
Marquez qui a crevé.
Voilà, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Même au niveau des essais. Il s'est passé énormément de choses. Marco Bezzecchi qui remporte la course alors que deux jours plus tôt, il avait fait deux sorties de route. Bezzecchi, vainqueur, tu l'as dit... devant Pedro Acosta et Raúl Fernández, avec 4 Aprilia sur 5 dans le top 5. Côté français, Joan Zarco 11e avec sa Honda. Il se stabilise et surtout il est optimiste pour le développement de sa moto. Mais Fabio Quartararo 14e, et c'est là l'objet de mon coup de gueule, le pauvre il va traîner son spleen une fois de plus durant toute la saison avec une moto absolument mal conçue. Son moteur V4 n'est toujours pas performant, la moto est difficile à conduire, elle manque de vitesse max, il y a eu deux chutes, il y a eu des chutes aussi en essai. Enfin, là on est parti sur des enchaînements de conférences en zone mixte au vitriol de la part de Fabio Quartararo. Enfin, vraiment ça devient dramatique. Son passage dans l'équipe première de Yamaha, depuis lui qui est présent depuis 2021, devient dramatique.
Mais comment on peut en arriver là?
Mais parce que
faire des motos comme ça qui fonctionnent pas.
Ben parce que Yamaha a voulu s'investir dans une technologie qui n'est pas la leur dans leur histoire. Le V4, je suis désolé, c'est une architecture moteur qui est lourde, qui est, on va dire, loin d'être la plus efficace. Quand on voit que les Ducati ont mis en termes de VMAX, ont mis quasiment 20 km/h en ligne droite à Yamaha la saison dernière, et que cette année Ducati, même si a un petit cran en arrière certes, mais Ducati et Aprilia, ça va être une sacrée bataille cette année, que la seule équipe qui fait pire que Yamaha, c'est Suzuki. Et encore Suzuki, je trouve qu'ils se remettent bien dans le sens de la marche. Je suis désolé, Yamaha, c'est plus possible. Il faut vraiment sauver le soldat Fabio, parce que là, c'est une moto délicate, sans VMAX, avec un comportement hasardeux. Bah, ça dénature complètement le parcours d'un excellent pilote qui a été champion du monde. Qui a été champion du monde, je le rappelle. Il y a eu des discussions, selon la rumeur, avec Ducati. Malheureusement, des discussions avancées, mais malheureusement, ça n'a pas vraiment abouti. Résultat, il va traîner son spleen encore cette saison jusqu'à la fin de son contrat, en espérant que potentiellement il y ait une équipe qui vienne le sauver. Mais là, ça commence vraiment à devenir gênant. Gênant pour lui de lui donner à chaque fois une moto aussi peu performante, pire que la saison prochaine. Et je termine là-dessus, à tel point que Fabio est déçu, dégoûté, énervé de sa moto, Yamaha a décidé que seul son directeur d'écurie, j'en trouve le nom, c'est Paolo Pavezio, qui a remplacé Lynn Jarvis pour cette saison, seul le directeur d'écurie sera habilité à s'exprimer face aux médias. C'est vous dire à quel point rien ne va plus alors que la saison vient à peine de commencer.
Oui, ça promet.
Voilà.
Très bien. C'est tout ?
C'est tout, c'est terminé, j'en ai fini.
Eh ben c'est très bien. Juste un petit mot, on n'en a pas parlé. Il y a rendez-vous les week-ends du 11 et 12 avril.
Oui, le 10, 11.
Qu'on connaît bien, il y en a ça.
C'est le tournoi U20. Tournoi des 4 nations U20 à Meudon avec la France, la Croatie, la Serbie et la Suède.
D'accord, ok. U20. Tu vas nous en rappeler que l'année dernière, on y avait été. Ça n'avait pas été très brillant pour l'équipe de France, ce tournoi.
L'équipe de France avait fini 3e.
Oui.
3e, c'était la Serbie qui a fini. Une belle équipe. Et c'est les mêmes générations cette année. Donc je pense qu'avec un an de travail supplémentaire, avec des stages et tout ça.
Et ce tournoi, c'est un petit peu l'antichambre.
C'est l'antichambre
complète. Des jeux de 2028 et de 2032. Hein. Voilà. C'est un peu celle qu'on verra en équipe de France pour certaines.
Il y en a quelques-unes qui sont déjà en France A déjà. Oui. Et il faut savoir aussi que les U20 préparent le championnat du monde qui aura lieu en Chine cette année au mois de juillet.
D'accord, elles préparaient déjà une épreuve l'année dernière.
C'était le championnat d'Europe.
Elles étaient terminées troisième, je crois.
Troisième au championnat d'Europe. Là, elles préparent le championnat du monde en Chine en U20 et il faut des beaux résultats. Et on les aura, je pense, parce que cette année, il a rappelé des anciennes qui étaient blessées. Il n'a pas eu de chance l'année dernière, il y avait 3-4 blessés. Là, il les a rappelés. Là, je pense qu'on va avoir un beau tournoi. Je vous invite tous à venir.
Oui, bien sûr.
Vous êtes toujours le bienvenu.
Oui, je sais bien. Donc, on va rappeler donc les 10, 11 et 12 avril.
C'est à Meudon.
Oui, c'est ça. À Meudon, où on aime beaucoup le sport. Hein. On l'avait découvert à travers une émission spéciale. Alors, je disais aussi, il y a d'autres projets pour le DOS, notamment la semaine prochaine. Sur notre antenne.
La semaine prochaine, on a...
Vous avez décidé d'interpeller les 6 candidats à la mairie de Paris.
Voilà, on s'est dit que c'est comme on représente les ligues et comités parisiens, il était intéressant de pouvoir savoir leur vue sur la mandature qu'ils vont avoir. Donc on a invité les 6 candidats.
Alors il n'y a qu'une seule réponse pour l'instant, on ne va pas dire laquelle.
Voilà. À ce jour, il n'y a qu'une réponse, c'est qu'on est un pas déçus, mais on pensait non. avoir plus de candidats qui nous exprimaient en fin de compte ce qu'ils veulent faire du sport parisien.
Non, mais ce qui paraît incroyable, c'est qu'en plus, tout le monde se réclame des valeurs du sport. On le voit que c'est fédérateur pendant les Jeux Olympiques et puis Paralympiques. On va dire corps d'audience dans une Coupe du Monde de foot. On barre des corps d'audience pour un match du 15 de France. On bat des records d'audience pour des Jeux d'hiver. Voilà.
Et puis finalement, est-ce que ça devient leur priorité?
Et puis je m'aperçois quand même qu'il y a certains candidats qui mettent le short et le maillot et qui se font prendre en vidéo pour exprimer le sport parisien.
Ouais.
Et qui font des belles vidéos.
On aura bien.
Et qui.
Alors, si certains et certaines nous écoutent. On lance un appel, venez parler sport.
Voilà.
Alors, on va rappeler que les thèmes abordés, ça sera le développement et la modernisation des équipements sportifs, ce qui est quand même important sur Paris.
Hein.
L'utilisation de ces équipements avec donc naturellement l'augmentation du nombre de créneaux et les réquisitions administratives des gymnases, ça aussi c'est un problème.
C'est un gros problème parce que chaque année, à partir du mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, on a des réquisitions. Là, on ne sait plus où on en est. Et c'est le sport parisien.
Oui, ils sont réquisitionnés pourquoi
pour le grand froid, on va dire, pour le grand froid.
C'est un des problèmes.
Et le gros souci qu'on a, c'est que maintenant, il y a certains parents qui ont payé des cotisations pour faire du sport, quel que soit le sport.
Les gosses ne peuvent pas faire du sport.
Ils demandent au comité et aux ligues d'être remboursés, je peux le comprendre.
Alors après, il y aura un autre thème qui sera abordé, ça sera l'accès au sport pour tous les publics. Alors notamment, l'accessibilité pour les PMR.
Parce qu'on a pas mal de clubs qui sont orientés sur le sport adapté, donc
Et puis aussi la réduction des inégalités d'accès à la pratique sportive. Ouais. Il y a une direction, pourquoi il y a... C'est en fonction des barrières sociales, des classes sociales, ça peut arriver,
c'est en fonction, et puis il faut reconnaître qu'il y a des gens qui ont plus d'aide que d'autres, et donc c'est pas bien, je veux dire qu'à un moment...
On en avait eu ce débat, je crois, il y a quelques mois.
Tout à fait, donc on a eu... les aides sont en baisse, faut pas
Oui, alors justement, le soutien au mouvement sportif associatif, soutien financier et reconnaissance du bénévolat, c'est sûr qu'avec des dotations en baisse, ça va poser problème. Comment vont-ils faire? Alors que le sport, c'est l'école de la vie.
Oui, et puis on nous disait que les JO allaient tout régler. On s'aperçoit que c'est pas ça, quoi.
On est en sixième vitesse, en marche arrière.
Justement, l'organisation de ces grands événements sportifs internationaux, quelles sont les retombées pour les clubs parisiens et puis la place qui est réservée donc, dans ce contexte au sport amateur.
Je voudrais que le sport amateur, c'est vrai qu'on a des clubs pro, quel que soit le sport. La mairie donne beaucoup d'argent dans ces clubs pro et on s'aperçoit, par exemple, je prendrai le club de handball du Paris Sport Club, zéro centime de la ville de Paris, quoi. Elle n'a que le 20e qui lui donne un peu d'argent, mais un club comme ça qui se déplace dans tout le territoire, ils font tout ça en minibus. On part le samedi matin, on rentre dans la nuit. Et je pense qu'à un moment, il faut savoir ce que la mairie veut faire, quelles sont leurs orientations.
Oui, c'est ça qui est intéressant de savoir.
Il n'y a rien de... Voilà, on veut savoir, c'est très bien. Nous, on représente le mouvement sportif. Et on veut savoir comment on fait accès au mouvement sportif sur Paris. Quoi.
Et vous êtes, c'est la question que je vous pose, vous êtes finalement quoi? Enfin, c'est un peu un silence à quoi? Enfin, parce que, pour savoir un peu plus...
C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a lancé ça donc à tous les gens qui se présentent et une seule réponse.
C'est
en droit de se dire que le sport, peut-être pour la seule réponse, c'est un plus, mais pour des autres, ça passe au.
On va voir, ils vont peut-être se manifester.
On s'aperçoit quand même que même au niveau de l'État, avant on avait un ministre des sports, maintenant on n'a plus qu'un secrétaire d'État. Ça veut tout dire.
Ça fait quelques années qu'on est ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
On n'a pas grand chose.
On la fréquente assez souvent, donc elle est bien ministre. Et puis moi il y a une question que je réserverai. Que va devenir le Parc des Princes? J'y tiens à cœur.
Écoute, le Parc des Princes, j'ai encore entendu certaines personnes qui disaient qu'ils voulaient...
Le raser. Installations du Stade Français.
Les installations du Stade Français, et ils voulaient mettre au-dessus, ils voulaient fermer le
périph'.
Ils voulaient fermer le périph' et faire une grande zone de jeu. On en a d'autres qui disent que maintenant ils sont prêts à le céder au PSG.
Oui, non, mais c'est ça qui est intéressant.
Il y en a d'autres qui disent que bah il faut le louer. Et puis ça a eu de faire des travaux parce qu'ils sont aperçus quand même, il y a 800 millions d'euros de travaux qui sont c'est énorme pour... Donc maintenant, il faut savoir quand même qu'on a des clubs qui sont touchés. Par exemple, le Stade français,
oui,
quel que soit le sport, quel que soit le sport, si ils arrivent à raser tout ça, ils vont aller où, les pauvres?
Oui.
Quel est le devenir de ce club?
Et l'ancienne ministre, elle est membre du Stade français, Madame Baudou. Hein.
En plus.
Ouais.
Donc moi je pense que le sport parisien, c'est pour ça qu'on a voulu interpeller, savoir exactement quelles sont les orientations, quoi.
Mmh. Donc on attend. Ça sera donc dans notre émission Mon Paris Sport. De toute façon, il y aura au moins une présence. Hein. Ouais. Puis bon, voilà. Donc s'ils nous écoutent ou les conseillers nous écoutent, la porte leur est grande ouverte. C'est des questions qui me paraissent légitimes parce que c'est vrai que faire du sport, c'est un bien-être physique, moral. Et puis c'est l'école de la vie. Tout est règle du sport. Hein. L'humilité, le partage, la mixité. Voilà.
Oui, ils reprennent tout ça, mais ils veulent pas venir.
Ouais. C'est exactement là où je voulais en venir. Parce que ça, ce sont les belles valeurs qu'on nous balance à chaque programme électoral, chaque manifestation sportive. Mais lorsqu'il faut en parler de manière concrète, il n'y a plus personne.
Eh ben, donc, s'ils nous écoutent, on leur lance, l'appel.
Et on vous remercie quand même de pouvoir nous aider. Mais
on est là
de
pour
faire ça.
On
dirait que vous êtes la radio du sport et de beaucoup de choses. Absolument. Et obligé qu'on fasse ça ici.
Très bien. Allez, on marque la pause musicale et ensuite on va passer à l'abondante page foot avec notre ami Stéphane Desenclos.
Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie, c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur. Comme dans toutes les chansons de Paris, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi. Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami. Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi. En vrai, tu peux pas tout contrôler, faut que tu l'acceptes. Être heureux c'est comme le reste, faut d'abord apprendre à l'être. Je sais, tu vas te coucher en disant demain je le fais. Tu te réveilles en disant demain je le fais. Mon ami, laisse-moi dire deux trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur.
Allez, on va retrouver comme chaque donc semaine notre ami de 433 Stéphane Desenclos. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Philippe.
Ouais. Alors Stéphane, j'ai envie de dire que le Paris Saint-Germain, dans son match de barrage contre Monaco, est passé par la petite porte.
Oh ouais, c'est une manière de voir effectivement les choses. On ne peut pas dire que Paris a fait un grand match. On a eu aussi en face un très très bon Monaco, notamment en première mi-temps. Et puis voilà. Mais bon, voilà, c'est vrai que il y a parfois faut juste se contenter de la qualification. Et puis voilà, c'est pas Monaco, c'est pas Brest.
Oui, bien sûr. Alors on va rappeler Marius que donc c'est un match nul à domicile 2-2 face à une équipe ensuite réduite à 10 en plus. Hein.
Oui, oui. Tu veux que je te donne les autres résultats?
Attends, pour l'instant on va parler de Monaco.
Non,
donc,
oui.
On revient sur Monaco. On va rappeler que le match aller donc Paris victoire avait 3-2. Gagné 3-2, mais avait été quand même très largement bousculé. Bah, est-ce qu'on peut être inquiet, Stéphane, pour la suite?
Bon. Ouais, bien sûr qu'on peut être inquiet pour la suite, comme n'importe quel match. Quand on voit un bon match, après on peut se dire qu'il y en aura un autre qui sera moins bon. Maintenant, c'est sûr que non, moi c'est pas ce match ou un match qui va me faire être plus inquiet qu'avant. C'est juste que je suis pas plus inquiet que je l'étais entre guillemets en début de saison, quoi, en sachant que c'est quand même une saison très particulière pour le Paris Saint-Germain.
Bien sûr.
À la fois déjà au niveau émotion, motivation, hein, quand t'as tout gagné, on peut dire que le club courait après ce titre depuis longtemps.
Bah, toute une vie, hein, toute une vie.
Voilà.
Toute une vie de supporter.
Ouais, du supporter. Et puis aussi, le club, on va dire, depuis une quinzaine d'années, depuis l'arrivée de QSI, quoi, 14 ans. Donc, on savait que ça serait pas simple. Maintenant, après, je trouve que c'est un peu difficile à dire. On regarde la saison dernière, ils sont passés au tir au but contre Liverpool. Ils sont passés contre Aston Villa, tout près à deux doigts de
passer de l'autre côté, quoi.
De jouer une prolongation lors du match retour, après leur victoire à l'aller. Donc, rien n'est simple. Alors après, c'est vrai que là, ils tombent contre Chelsea en huitième de finale, match retour là-bas. On pourrait penser que ça va être compliqué. Effectivement, ça va être compliqué. Je pense que Paris est pas forcément le favori de ce huitième de finale, mais bon, pas plus inquiet que je l'étais l'année dernière dans leur parcours et puis que je l'étais en début de saison, quoi, pour ma part.
D'accord. Alors, je l'ai dit avec Théo, hein, c'est un match qui sera suivi sur Mon Paris FM et on aura une soirée spéciale à l'occasion de ce match aller entre le PSG et Chelsea. Mais Marius, il n'y a pas eu que la courte victoire du PSG, la courte qualification. Il y a eu le Real qui a assuré l'essentiel et surtout une énorme surprise avec Bodo Glimt.
Et oui, des surprises, hein, mais comme tu l'as dit, hein, Philippe, on avait le match retour de Benfica contre le Real Madrid et le Real Madrid a fait le taf, hein, comme on dit. Victoire 2-1. Ils se sont fait peur un moment parce qu'ils ont encaissé le premier but, mais bon, ils se sont remis la tête à l'endroit et puis c'est au Bernabeu, du coup, ils se sont qualifiés plutôt tranquillement.
Ils avaient gagné le match aller
1-0.
La grosse surprise.
Grosse, plus qu'une grosse surprise.
Une sensation.
Bodo Glimt. Ouais. Rappelons-le, donc contre l'Inter Milan qui avait déjà gagné 3-1
à l'aller. À Milan en plus.
Chez eux.
Oui, mais c'était pas Milan.
Mais justement, Milan qui devait rattraper son retard à la maison.
Ils ont été gagnés à Milan.
Et ils ont gagné 2-1. Donc c'est un exploit monumental. Ils sortent les finalistes quand même de la dernière édition. Ouais.
D'ailleurs, le football italien, il est à l'image de ce qu'il est depuis quelques années. Il a vécu une soirée très très difficile, Stéphane.
Ouais, tout à fait, parce que ce qu'il faut signaler quand même, c'est que c'est effectivement le finaliste de la dernière édition, l'Inter Milan, mais c'est aussi le leader de la Serie A.
Et assez facilement, assez largement, quoi.
Ouais, avec 10 points d'avance sur le Dauphin, hein, qui est d'ailleurs l'autre club de Milan. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'est peut-être encore plus impressionnant, quoi.
Ouais, c'est ça qui est fou.
On peut jouer une finale et après, il peut y avoir des départs, ou comme on l'a dit, ils peuvent aussi avoir le contre-coup aussi physique, émotionnel et tout. Ça faisait deux finales en 3 ans, je crois. Donc c'était une équipe qui était tout en haut. Donc il y a ça. Donc c'est vraiment un exploit, comme ça arrive dans le football. Alors je suis pas très très bien informé de ce qui se passe à l'Inter, mais c'est pas pour ça forcément. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire c'est pas pour ça que qu'il faut tout révolutionner, rien ne va plus et tout, puisque le club est à 10 points d'avance en tête de la Serie A et va donc très probablement être gagner le championnat. Donc ça veut dire que c'est pas un club qui est en train de qui est en décrépitude, quoi. Donc
quand même, c'est vraiment, tu fais quand même sortir par Bodo Glimt, pardon, mais ouais, enfin, voilà, tu veux pas sonner la sonnette d'alarme, justement, mais enfin, c'est quand même inquiétant de se faire sortir par ce club-là. Quand bien même à domicile, ils sont très forts, tu dois quand même passer quand même.
Moi, je dis pas ça, je dis pas ça, et c'est, je pense que c'est le contre-exemple, quoi. C'est-à-dire que ça serait facile de dire, quand par exemple, bon, je prends un exemple de ce qui se passe en France, ce qui s'est passé avec l'Olympique de Marseille, et ce qui s'est passé, on en est arrivé là, l'Olympique de Marseille est seulement quatrième du championnat, même s'ils ont regagné le match hier. Oui. Et malgré tout, on voit tout ce qui se passe, c'est un club en crise. Maintenant, je pense qu'il est difficile de dire aujourd'hui que l'Inter Milan est un club en crise. Quand tu es en tête du championnat d'Italie avec 10 points d'avance, je pense que tu ne vas pas dire que c'est un club qui est en crise. Il s'est passé quelque chose, pour moi, en tout cas, moi, je suis peut-être un peu simpliste, mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire qui peut toujours arriver, qui arrivera une fois tous les 10 ans, tous les 15 ans en football, comme un club qui est en National ou en National 2 qui va en finale de la Coupe de France.
C'est dur de dire ça de Bodo Glimt. C'est dur. Parce que Bodo Glimt, franchement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ils sont dans une progression sur le plan européen qui est exponentielle. Hein. Ça fait 3 ans qu'ils jouent l'Europe.
Mais là, c'est plus gros exploit quand même.
Je parle d'exploit. Mm. Moi, on peut comparer quand même. Moi, je pense qu'on peut largement comparer sur le papier un club de National qui élimine une Ligue 1 en Coupe de France et de Bodo Glimt qui bat l'Inter Milan avec match retour à Milan.
Oui, surtout
que c'est
le match aller-retour. Ils ont gagné les deux matchs. Stéphane, est-ce que c'est pas un petit peu aussi à l'image du foot italien qui est quand même en déclin depuis quelques saisons? On le voit au niveau de l'équipe nationale et même au niveau des clubs, excepté l'Inter l'année dernière. Il n'y a pas eu beaucoup d'équipes. L'Inter l'année dernière, je crois, avec l'année où ils sont battus par Manchester City, mais sorti de l'Inter, il n'y a pas eu beaucoup de clubs italiens qui, ces dernières années, ont joué les premiers rôles dans les Coupes d'Europe.
Là, vous prêchez un convaincu. Hein. Moi, je milite contre la diaspora qui dit que la Ligue 1 est le cinquième championnat européen et tout. Je suis absolument pas d'accord. Depuis longtemps, je dis qu'on a rien à envier en dehors de la première ligue aux autres championnats. Donc, effectivement, on peut dire exactement la même chose de championnat italien qui a de plus en plus de mal.
Ils n'ont pas fait de Coupe du Monde quand même récemment, Italiens, excepté l'Inter, la Juventus, Naples et puis Milan AC, on n'en parle plus en Coupe d'Europe. Hein.
Ouais, voilà, on en parle quasiment plus, mais plus beaucoup.
Il y avait Bergame qui avait fait une bonne Ligue Europa. Voilà.
Bergame qui a remporté la Ligue Europa, c'est déjà un exploit, c'est leur premier trophée européen. Ouais. Et puis l'AS Roma aussi, on n'en parle pas.
La Roma aussi.
La Roma qui a remporté la C4. Hein.
C'est vrai qu'on oublie la C4. Oui, c'est tellement une Coupe d'Europe.
Europa conférence.
Au Rabec, on l'oublie.
Avec Mourinho, je crois.
Oui, avec Mourinho.
Aux commandes, donc. C'est bien, ils font toujours des résultats. De toute façon, ça n'a pas forcément non plus un rapport direct à ce qui se passe. Mais bon, pour revenir à cet exploit de Bodo Glimt, moi, je pense que c'est toute la beauté du football. Quoi.
Oui, heureusement, heureusement. Ouais.
Voilà, et je pense qu'il ne faut pas tout le temps chercher.
On avait perdu l'habitude un peu. Hein. Ouais,
c'est passé ça, et c'est passé ci. Il y a ça, il y a la crise, il y a le déclin et tout.
Non, mais on essaie de trouver.
C'est ce que les gens ont dit en plus.
Tu nous connais, on est journaliste, on essaie de trouver des explications.
Bien sûr, tout le monde. Voilà. Là, en France, il y a certainement des raisons. Pourquoi ils ont. Peut-être qu'ils ont mal abordé ce match. Bon, il n'y avait pas.
Oui, et puis ils gagnent les deux matchs, c'est ça le pire. Ils vont gagner à l'Inter et en plus.
Leur meilleur joueur qui était absent. Ouais. Maintenant, gagner les deux matchs, c'est pareil, Philippe, tout est relatif parce qu'ils devaient marquer des buts et gagner pour passer. Donc, je pense qu'ils ont attaqué, Effectivement, à ce moment-là, ils s'exposent, ils jouent leur va-tout. Donc, après, ils prennent des buts derrière. Quoi. Donc, tout est relatif. C'est
il a bien changé le football italien.
il pointe des buts derrière. Non, non, mais voilà.
Ah oui, une dernière chose quand même. Bodo Glimt sur leur dernier match, ils ont battu quelles équipes?
Oui, oui.
Non, mais vraiment, il faut le mettre. Voilà, l'Atlético,
Manchester City.
Sur un match,
chez eux. Voilà, chez eux. Alors, certes, même si c'est sur un match, il faut quand même se dire que la portée de l'exploit, elle l'est parce qu'on est sur un match en aller-retour. Mais plus le temps passe, moins il va falloir les considérer comme des comme une équipe de coups ou une équipe d'exploit. Ouais.
Alors justement, Marius va nous donner donc l'affiche des huitièmes de finale et on va voir sur qui justement Bodo Glimt va tomber.
Alors on commence Galatasaray Liverpool, belle petite affiche. Atalanta Bayern, Newcastle Barcelone, Atlético Tottenham, Bayer Leverkusen Arsenal, Real Madrid Manchester City,
un classique.
Et Bodoglis Sporting, donc Bodo qui
s'en sort. Sporting du Portugal.
Sporting Portugal, voilà. Bodo qui s'en sort plutôt bien dans le tirage, et PSG Chelsea.
Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais je suis d'accord avec toi, c'est jouable pour Bodo Glimt. Alors on parle aussi de.
Sous-estimez pas trop le Sporting Portugal, ils ont leur mot à dire aussi.
C'est ça le football, c'est ça
qui est bien. C'est un tirage, quoi.
Allez,
c'est un tirage ouvert.
On parle de, maintenant de
en
la
Europa
League.
Oui, ouais,
et les résultats des clubs français.
Oui, et Lille, qui avait perdu 1-0 face à Belgrade chez eux, devait faire un exploit à Belgrade pour espérer aller en 8e de finale. Et ils ont réussi.
Oui.
Victoire 2-0. Alors d'abord 1-0 et ils ont marqué en.
Stéphane,
en
prolongation. L'avait prédit, il l'avait dit. Hein, Stéphane.
Ouais, je l'avais dit. Je me permets juste de reprendre Marius. Pour moi, c'est absolument pas un exploit de gagner à.
À l'étoile rouge. Ouais.
Même si, effectivement, je comprends. Je crois que c'est leur seule défaite, en tout cas cette saison, du moins à domicile. Hein. Je ne sais pas depuis quand ils n'avaient pas perdu à domicile. Mais bon, pour moi, ce n'est pas forcément non plus un exploit. C'est, Lille devait éliminer l'étoile rouge de Belgrade. Et puis, bon, bah, ils n'ont pas été au rendez-vous à l'aller. Parce qu'ils ont fait vraiment un sale match. On le disait après à l'aller qu'ils s'en sortaient quand même bien avec cette défaite 1-0. Et finalement, bah, on voit que les deux résultats comptent. Bon, ça bien sûr, c'est un peu la palisse dirait la même chose, quoi, mais les deux résultats sont hyper importants à l'aller comme au retour, parce que peut-être que si on a vu avec Paris contre Monaco par exemple, Paris qui est passé tout près, qui s'est fait une grosse frayeur, et ben s'ils avaient mis lors de leur quatrième but aller, ça aurait pas été pareil. Là c'est pareil pour Lille qui est complètement passé à travers, et l'étoile rouge, je pense, doit regretter son manque d'efficacité à l'aller à Pierre-Mauroy. Moi je trouve c'est bien, c'est un bon résultat, mais c'est pas forcément un exploit.
Alors tu nous donnes les affiches des clubs français pour les huitièmes,
Et du coup Lille hérite d'Aston Villa, ça c'est compliqué par contre, là, comme tirage. Et Lyon, qui avait fini premier, hérite du Celta Vigo, donc bon tirage pour Lyon.
Et puis en Conference League,
Strasbourg qui avait aussi fini premier de conférence, ils vont affronter Rijeka.
Oui, donc là aussi c'est largement jouable atteignable pour les Strasbourgeois. Allez, tu nous donnes les résultats de la 24e journée. On n'est plus qu'à 10 journées de la fin.
Ça avance vite. Et 24e journée, on a commencé par un Strasbourg-Lens et match nul. 1-1 dans un match plutôt animé entre les deux équipes. Lens laisse l'occasion à Paris de prendre le large en tête. Et Strasbourg, eux, restent au contact des places européennes. Ensuite on a eu un Rennes-Toulouse et victoire de Rennes 1-0. Rennes enchaîne de nouveau et effectue sa troisième victoire consécutive qui leur permet maintenant même de mettre la pression sur l'OM. Toulouse, eux, ils n'arrivent plus à gagner, ça fait 5 matchs qu'il y a des mauvais résultats et maintenant ils se situent dans le ventre mou.
Chacun a ses périodes de moins bien et puis d'euphorie.
Et quand on parle de bien, Monaco Angers, victoire de Monaco 2-0, ça va mieux à Monaco, qui après une bonne double confrontation face à Paris, on en parlait, enchaîne une troisième victoire consécutive. Les Monégasques peuvent même croire, pourquoi pas, à la Ligue des Champions. Du côté d'Angers, pareil, là ils sont plutôt sur une mauvaise période, c'est 3 défaites de suite. Ensuite, Le Havre, PSG et victoire du PSG au Stade Océane. Le PSG il s'impose sur la plus petite des marges.
Avec un but de Barcola.
But de Barcola. À souligner quand même la grosse performance du gardien havrais, Dio. Paris prend donc maintenant le large en tête avec 5 points d'avance sur Lens à 10 journées de la fin.
4. 57-53.
Paris FC Nice. victoire du Paris FC.
Pour la première de Comboiré,
pour le premier match de Comboiré, donc une victoire importante, très importante pour les Parisiens qui leur permet de souffler au classement et de passer devant leur adversaire du soir.
1-0 devant Nice.
Nice est maintenant à une place du maintien.
Oui.
Lille-Nantes, victoire de Lille 1-0 au bout du bout. Hein, les Lillois,
mais là aussi, ça va mieux, Lille, avec leur nouvelle victoire là, cette semaine.
Mais dans un match plutôt pour Bourbier, pour Lille, ils rapportent la victoire à la dernière minute. Une victoire ô combien importante pour eux, mais tout aussi cruelle pour les Nantais. Qui...
Tu fais du mal à Théo, là.
Arrêtez, là.
Mais Lille...
Achevez une bête blessée, sur le point de mourir. Bon, voilà.
En revanche, Lille, tout comme Rennes, qui met la pression sur l'OM, maintenant. Lorient-Auxerre et match nul 2-2, match d'abord très animé avec 4 buts en 30 minutes. Le match a été très serré ensuite et personne n'a su se départager. Auxerre gratte donc un point à Nantes et remonte barragiste. Lorient continue, c'est plutôt bonne performance en revanche. Metz, Brest et victoire de Brest 1-0. Pourtant, contre des adversaires réduits à 10, dès la 20e minute, les Messins n'ont pas trouvé la solution pour faire craquer de valeureux Brestois qui, grâce à un très bon Ludovic Ajorc, remporte la victoire et peut croire à l'Europe, pourquoi pas. Metz, eux, semblent condamnés et restent derniers.
Ça va être de plus en plus compliqué.
Et le match du dimanche soir, le temps attendu.
Super match, spectaculaire. Marseille-Lyon. Comme très souvent d'ailleurs, les Marseillais-Lyon.
Marseille-Lyon et victoire des Marseillais 3-2. Match spectaculaire au Vélodrome, mené par deux fois. Marseille a totalement renversé la rencontre. Les Marseillais se relancent donc.
Et pour une fois, ils n'ont pas sombré dans les fins de match.
Voilà. Donc, et reviennent au contact de Lyon. Ils peuvent même croire maintenant au top 3.
Alors on verra, donc justement, le PSG en tête 57 points, devant Lens deuxième 53, troisième Lyon 45, quatrième Marseille 43, et cinquième Lille et Rennes 40, donc c'est là qu'on va jouer les places européennes, même si Strasbourg et Monaco sont plus très loin en embuscade. Alors qu'en bas de tableau, donc le Paris FC se partage la 13e place avec le Havre, donc 26 points. Il y a quand même une marge par rapport à Auxerre 16e qui est avec 18 points, et 17e donc Nantes 17 points, et 18e Metz 13 points. Stéphane, il commence à y avoir des écarts là.
Ouais, il commence à y avoir des écarts. Et puis quand on regarde bien quand même, je pense que le grand vainqueur du week-end, c'est Lens, qui a fait un match nul à Strasbourg, qui aurait pu perdre le match, mais qui a fait aussi un très bon match. Ouais. Et grâce à leurs petits points et grâce à la victoire de l'OM.
J'ai l'impression qu'ils ont un petit coup de moins bien, Lens. Tout petit coup de moins bien.
Ils ont un petit coup de moins bien. Je pense qu'ils étaient surtout en sur-régime. Hein. Moi, j'ai beaucoup suivi cette équipe et il y a quand même déjà plusieurs matchs qu'ils ont gagnés avec un petit coup de pouce du destin. Je pense à Lens Auxerre, par exemple. À Bollard, même à Lens Marseille par exemple aussi, où c'est des matchs c'était un peu ils ont eu ça a tourné en leur faveur, là ça tourne moins en leur faveur, mais je pense que là au moment où on se parle, je pense qu'ils ont 8 points d'avance, ils sont deuxième, ils ont 8 points d'avance je crois que c'est 8 points d'avance sur Lyon troisième, et puis donc 10 points d'avance sur 10 points d'avance sur le quatrième.
Il y a des écarts
et sur le cinquième qu'on a encore 3 buts, 13 points d'avance sur le cinquième. Ça veut dire qu'ils ont fait cette journée, elle a été intéressante quand même, un peu assez intéressante pour eux finalement dans la course à la Ligue des Champions. Mais c'était prévu quand je me souviens d'un article qu'on avait fait sur le site quand il y a deux journées on savait que Paris c'était Metz et Le Havre et Lens c'était Strasbourg et d'abord ils ont perdu et ils recevaient Monaco et après ils allaient à Strasbourg, c'était à ce moment-là qu'il fallait que Paris repasse devant et prenne au moins 3 ou 4 points d'avance quoi. Donc ça pour le titre ça me semble toujours un peu compliqué, mais bon, on sait jamais, tout peut arriver, mais derrière moi je suis un peu étonné, mais on a vu Antoine Kouamboué par exemple qui a fait des choix forts dans son équipe, que Stéphane Gilly ne faisait pas, quoi qu'on dise. Il a fait du bon travail, peut-être lui, par, euh, par c'est peut-être plus difficile de faire des comme mettre Maxime Lopez sur la touche pour ce match, son défenseur Colo là qui l'a mis aussi, quoi. Les deux capitaines de la saison étaient sont restés à la maison, étaient pas dans le étaient en tribune, et finalement ça a été un peu plus consistant pour le Paris FC, même si ils ont gagné 1-0 contre Nice, qui est bas de tableau, c'est pas non plus le marrant, mais c'est important. Puis Nantes, voilà, on est dans ce que je disais pour Lens, que Nantes en revanche tout tourne en leur défaveur, quoi. Ouais. Avec, soulignons le N'Goy, le Belge, le jeune Belge qui a été recruté cette année, qui est quand même le héros de la semaine lilloise, hein, puisque c'est lui qui marque le deuxième but à Belgrade, le but de la qualification, et c'est lui qui marque aussi là dans les arrêts de jeu le but de la victoire du LOSC contre Nantes.
Ouais. Ouais. Voilà, on en passe à la Ligue 2 maintenant, 25e journée.
Voilà, et Montpellier-Reims, match nul 0-0. Clermont-Dunkerque, victoire de Clermont 2-1.
Oui, Dunkerque, à chaque fois, il rate le coach, il perd des matchs souvent importants, et finalement, ils restent bloqués et ils peuvent pas aller se battre pour la montée.
Et Bastia-Annecy, victoire de Annecy 2-0. Grenoble-Boulogne-sur-Mer, match nul 0-0. Laval-Nancy, également match nul 1-1. Red Star Le Mans, encore un match nul 0-0.
Les poursuivants,
Guingamp-Rodez, encore un match nul 0-0. Pau-Saint-Etienne, grosse victoire de Saint-Etienne 3-0, qui prend même provisoirement la place de leader en attendant le match de ce soir, Amiens contre 3.
Oui, c'est vrai que c'est incroyable. Bon, on va attendre le match de 3, Stéphane, mais bon, Saint-Etienne qui a perdu quand même beaucoup de points, beaucoup sur des matchs importants. Ils sont en tête à 46 points, devant 3, donc pour l'instant, deuxième 45. Reims est troisième 42, quatrième le Restart, puis le Mans 41. Donc on voit que les positions restent serrées. Et puis en bas de tableau, quand même, 16e Amiens avec 23 points, 17e Laval 19 et 18e Bastia, donc 18 points.
Ouais, tout à fait, avec Saint-Etienne, hein, je crois qu'on a déjà dit ça la semaine dernière. Saint-Etienne, c'est le troisième succès de suite pour Saint-Etienne.
Grâce à Montagnier,
Voilà, et on en parlait, hein, lundi dernier. D'ailleurs, je sais que pour la petite anecdote, il nous écoutait et puis il m'en a parlé après.
Ah, c'est sympa, c'est sympa, sympa.
Mécha Bazaravic nous écoutait et on en parlait ensemble dans son interview. Il disait qu'il y regrettait un peu qu'on fasse pas assez confiance aux entraîneurs français, parce que lui, il a la nationalité française, hein, donc il se mettait dedans, mais aussi les autres. Et il était ravi qu'on mette Montagnier, parce que je sais pas ça sera toujours une énigme pour moi pourquoi on a été chercher Eric Erneland en Norvège pour prendre les rênes de Saint-Etienne. Ça fait 3 victoires de suite, là, pour l'instant, pour Montagnier, qui va très bien. Puis je souligne quand même toujours, je remets une petite pièce tous les lundis, Rodez, 11e match sans défaite de Rodez, 5 victoires, 6 matchs nuls. Avant de jouer à Guingamp ce week-end, sur les 10 derniers matchs, ils étaient leaders de la Ligue 2. Alors qu'ils ont le deuxième ou troisième plus petit budget, 4 fois moins grand que Saint-Etienne, Montpellier, que les clubs comme ça. Donc voilà, maintenant après, tout va très vite. On voit qu'en haut, c'est très, très, très serré. Reims, qui allait très bien, a fait une succession. Je pense que Reims, ils sont à 2 ou 3 nuls de suite, là. Donc, ils sont bloqués. 3 a eu un passage à vide, mais a bien réussi à rebondir. Je serais pas du tout surpris qu'il s'impose ce soir.
Oui, la logique le voudrait, quoi. Mais c'est vrai qu'on en parlait souvent dans ce championnat de Ligue 2. Il y a quand même beaucoup, et on le verra aussi en national, il y a beaucoup d'inconstance quand même, hein, dans les résultats.
Ouais, exactement. Il y a beaucoup, beaucoup d'inconstance, quoi. Alors souvent, t'as une équipe qui fait, parce que la fameuse année où Bordeaux est pas monté, ils ont été longtemps en tête avant de commencer à perdre des points et finalement terminer, je crois, 6e ou je sais pas combien, mais en tout cas ça a été compliqué pour eux. Mais oui, c'est vrai que c'est très les le champion d'automne est peut-être dans les cinq, mais c'est pas toujours celui qui va aller au bout. C'est ça, c'est extrêmement compliqué comme championnat, et il y a toujours des surprises, et on le voit. Est-ce que Le Mans va tenir, par exemple? Est-ce que Resta, on sait pas. Ouais. Là, ils se sont rencontrés, ils ont fait match nul. Le Resta cale un peu aussi quand même en ce moment. Donc c'est non, il peut se passer plein de choses intéressantes,
Allez, après donc la Ligue 1, la Ligue 2, le National, 23e journée avec des fortunes diverses pour nos équipes franciliennes.
Mais ça a plutôt bien commencé. Hein. Versailles qui gagne 3-0 à la maison contre Aubagne. Mm-hmm. Et là par contre défaite qui fait mal, très mal.
Incroyable.
Défaite. Ouais. 4-0, Fleury-Concarneau, hein, ouais. À la maison, ils perdent 4-0, ça fait très mal. Mmh. Et Châteauroux-Paris 13 Atlético, par contre, qui gagne 1-0 à Châteauroux.
Voilà, et puis dans les matchs des équipes de tête, match nul pour Rouen à Orléans, 1 partout, et Sochaux qui a battu donc Villefranche en Beaujolais 2-1. Dijon était exempt pour cette journée de championnat. Donc en championnat, il y a 3 équipes qui sont en tête. Donc ça y est, Sochaux, ils sont revenus, Stéphane. Hein, mm-hmm. Rouen, Dijon et Sochaux avec 42 points. Alors je crois qu'il y a quand même une équipe qui a un match de plus. Et puis ensuite, Versailles, il y a un trou quand même. 4e avec 36 points. Fleury est 7e avec quand même 31 points malgré sa large défaite donc vendredi face à Concarneau. Et puis le Paris 13 Atlético à égalité avec Rouen à la 10e place avec 26 points, et en bas de tableau donc 15e QRM et Bourg-en-Bresse 18 points, et 17e Saint-Brieuc 14. Donc c'est bien
Rouen,
le match à 3.
Rouen est plus que 10e.
Non, c'est Caen, QRM, c'est l'autre club de Rouen.
Hein. Ah, quand t'as dit Rouen, c'est pour ça.
Ah bon, alors, autant pour moi, Caen et Paris 13 Atlético, donc avec 26 points à la 10e place.
Ah, mais ça, c'est important, la victoire du Paris 13 Atlético à Châteauroux, elle est importante. Parce que Châteauroux, c'était un bas de classement aussi. Mmh. Et c'était vraiment très, très important. Cette victoire, elle vaut cher.
Oui. Et puis, il y a un petit creux quand même pour Versailles pour aller chercher les trios de tête, hein, Rouen, Dijon et puis Sochaux. Hein. Il y a un petit creux, ça va être compliqué quand même pour aller chercher pour la montée. Hein.
Ils n'ont peut-être pas les reins, c'est celui, mais bon. On sait jamais. Hein,
il y a 6 points.
Tout
est
possible. Ouais. Tout est possible. Hein. Mm-hmm. Vraiment, en national, tout est possible. Donc, tout peut arriver. Ils peuvent faire des espoirs. Puis une équipe peut s'écrouler. Donc, on va voir. Bon, c'est sûr que ça va être compliqué. Mais bon, moi, je dis en national comme en Ligue 2.
C'est ce qu'on a dit. Il y a beaucoup d'inconstance. Le résultat d'un jour n'est pas forcément celui qu'on aura la semaine suivante. On finit donc ce tour d'horizon de l'actu foot assez large cette semaine. Avec les féminines, il n'y avait pas de championnat. Et pour cause, Marius.
Et oui, il n'y avait pas de championnat, mais parce que la France connaît maintenant ses adversaires pour la qualification à la Coupe du Monde 2027 qui se passe au Brésil. Et dans le groupe de la France, il y a donc l'Irlande, la Pologne et les Pays-Bas. Le premier match se joue même demain
à
contre l'Irlande.
À Dijon, et ensuite il y aura un France en Irlande à 19h30, et il y aura un France Pologne à Dijon à 21h10, donc le 7 mars samedi. Voilà, merci Stéphane.
Merci à vous, et puis bonne soirée.
C'est un week-end c'est une semaine de Coupe de France là, qui arrive. On a un aller chaud Lyon-Lens quand même.
Il y a des sacrés matchs aussi, quoi. Ça va encore être palpitant. On a vécu un super week-end de Ligue 1, je pense. Oui. Et on va vivre une bonne semaine aussi de Coupe de France avant un autre super week-end de Ligue 1.
Bien sûr. Allez, foot. Et après la Coupe du Monde, à la fin de la saison, on aura l'occasion largement d'en parler. Merci Stéphane. Allez, bonne soirée. Et rendez-vous la semaine prochaine. Merci en tout cas.
Allez, ciao.
Voilà. Alors Philippe, on a encore un peu de temps. Tu vas nous dire un petit peu ce qui se passe actuellement au niveau du hand, au niveau des clubs franciliens. Tout va bien. On arrive donc presque à la fin de saison.
Ouais, saison se rapproche petit à petit. On a Ivry qui risque de remonter, de remonter en D1, c'est une bonne chose. On a Ponto qui va se maintenir gentiment. On va voir. Peut-être qu'il y a des clubs encore
Tremblay aussi.
Ça va se maintenir. Tremblay. Je suis content parce que c'est un copain à moi qu'on traîne.
Oui.
Mais c'est surtout Massy là, qui n'était pas terrible en pro. Et puis, en fin de compte, ils se refont une petite santé. Il y a une possibilité de se maintenir.
Ça, oui. Ça va être Et donc, au niveau de vos clubs, c'est, bon, on en avait parlé l'année dernière quand on était venu à ce micro. On était aussi allé faire l'émission donc, à la Maison du Hand à Créteil. Ça va, les pratiquants? Il y a toujours autant de...
On a de la chance sur notre ligue. On n'a pas... Ici, il y a une petite perte quand même au niveau fédéral.
Ah, quand même.
Il y a une petite perte de licenciés. Mais nous, au niveau de notre ligue, on va se maintenir à peu près... pareil, avec à peu près 30% de pourcents de féminines.
Oui, c'est bien.
Oui, c'est très bien. Oui,
elles arrivent à...
C'est très très bien, oui. Mm-hmm. On arrive à se maintenir dans des féminines, et c'est une bonne chose. Et je suis content de Paris 92 qui va aller en demi-finale de la Coupe de France.
Oui, c'est vrai qu'elle est... Alors, ça tombe, je crois, le week-end de Pentecôte, hein,
ouais, la finale de la Coupe de France.
Ouais, ouais. Ouais. Bah, c'est bien, le Paris 92, c'est un club qui avait un petit peu de difficulté.
Ils ont eu du mal, là, cette année, c'est une année, on va dire, charnière. Il faut se renouveler aussi, c'est toujours pareil. Il faut se renouveler. Et
ah,
donc,
il manque un micro, là. Vas-y. Vas-y, c'est bon.
Donc, changement d'entraîneur, des nouvelles filles qui arrivent, et je pense que... Bon, en fin de compte, ils font une saison correcte. Là, ils sont 8-9e. Ils étaient, à un moment, ils étaient un peu mal. Ils sont repris après la trêve. Et là, ils viennent de battre Besançon au pénalty. Ils sont en demi-finale de la Coupe de France. Et c'est bien. Bon, il y a eu un alléchant Metz contre Brest.
Ouais. Alors, justement, en Coupe d'Europe, ces deux équipes-là, Metz et Brest, sont qualifiées. Ouais. C'est un petit peu plus dur quand même pour nos garçons. Je suis désolé aussi pour encore Théo. Nantes et le PSG cette année, ça va être très très compliqué. Hein.
Je pense que Nantes a plus de chance que le PSG.
Ouais, ça va être
quasi convaincu. Ouais. Et bon, après, c'est toujours pareil. PSG, pareil, changement d'entraîneur, d'autres façons de s'entraîner. Et donc, ça marque. Hein, un changement d'entraîneur, à ce niveau-là, ça marque. Et bon, il faut retrouver des automatismes et tout ça. Nantes, j'ai vu un alléchant Nantes ce week-end la jouer, c'était contre Nîmes. Et Nantes, c'est très fort.
Nantes, c'est solide.
C'est très solide.
Et c'est vrai que c'est une ville qui est une ville de hand maintenant, hein, une ville qui était à connotation foot, mais ils ont trouvé leur public à travers cette belle équipe de handball.
Malheureusement,
hein. Merci la famille Kita qui a détruit la cote de popularité de Nantes.
Oui.
Au bénéfice du H.
Oui, ça aide quand même. On dit le foot, c'est moins bien, alors on va au hand.
C'est ça.
Malheureusement, il y a l'équipe féminine qui n'existe plus. Qui a eu des gros problèmes financiers, qui a perdu son.
Les Hermines, c'est ça?
Oui, le partenaire. Leur partenaire principal, et ben voilà, l'équipe pro a été liquidée, liquidation judiciaire.
Une ancienne grande ville de sport, parce que pour juste compléter, il y a eu le même phénomène au volleyball.
Ah bon? Pareil.
En filles, donc
pareil,
les
c'était
Neptune,
le même partenaire. C'était le même partenaire.
Les Neptunes qui étaient en Ligue 1, qui étaient en Ligue 1 féminine et qui ont du coup n'existent plus. Et pareil pour le NRMV, donc qui était le club de Rosé. Donc, banlieue proche de Nantes, qui était en Ligue 1 aussi en Marmara et qui donc maintenant n'existe plus.
Ah,
donc le sport féminin, donc le sport féminin en général, a du mal à se trouver des vrais partenaires, une vision. Il manque quelque chose au niveau du sport féminin.
Il y a encore des efforts à faire.
Il y a des efforts à faire uniquement parmi ceux qui sont capables de donner les moyens et la visibilité. Uniquement ça, parce que le sport féminin, je suis désolé, mais on parle du sport masculin pour ses exploits, mais le sport féminin est aussi bourré d'exploits, peu importe les sports. Il faut vraiment que cette mentalité change par l'avenir, parce qu'il y a de très belles histoires aussi dans le sport féminin.
Alors justement, parmi les belles histoires, c'est Metz et puis Brest.
Metz et Brest, écoute.
Ah, c'est fabuleux. Et ça dure depuis des années, quoi.
Bah, oui, ça dure. Et le reste, quoi. Quand même.
C'est bien, malheureusement, il en faudrait d'autres.
Parce que
c'est deux locomotives, et je pense que grâce à ces deux... Après, il y a des investisseurs qui sont là, mais je pense aussi qu'il faut vraiment, se servir de ces deux clubs pour aller de l'avant. Moi, je voudrais les voir...
Après, l'Est et l'Ouest, c'est ça qui est fabuleux en plus.
Je voudrais toutes les deux les voir au Final Four, quoi. Et toi, ça aussi, on n'a pas eu de chance de tirage au sort pour la Coupe de France. On aurait pu faire une belle finale, Metz contre Brest à l'Arena, et je pense qu'on remplissait l'Arena.
C'est sûr.
Ouais, mais c'est le problème, il est là. Le problème, il est là. C'est-à-dire qu'il y a Metz, Brest et les autres.
Et les autres.
Et c'est dommage parce que y a des clubs qui travaillent très bien. Plan de Cuc qui travaille très bien. La Stella Saint-Maur fait un travail d'arrache-pied pour ses
maintenir. Ils ont changé d'entraîneur. C'est Lucky, je l'ai vu, mais je pense qu'ils vont sauver.
Ah ben oui, honnêtement, je
leur souhaite.
Je leur souhaite aussi.
Merci Philippe.
Et à la semaine prochaine.
Hein. On attend donc la dernière ligne droite. Enfin, quoi qu'il arrive, nous, on sera là. Cette émission, vous pourrez donc la réécouter en podcast, hein, comme toutes les émissions des semaines précédentes, sauf celle du 16 février. Belle soirée à toutes et à tous. Merci à Jason pour avoir brillamment une nouvelle fois été aux manettes de cette émission. La musique, et on vous laisse avec les copains d'Au bout du foot. Belle soirée à toutes et à tous.
Il n'y a plus de roi. Je veux être le prince de la ville.
Eh, je suis au volant dans ma caisse. Au fond rouge, je me demande une pièce. Paris connaît aussi la S. J'ai quelques trucs à régler dans la vie. J'ai refaire contrôle et je repars. Pourtant, j'avais de la S. Et je vois des paires de fesses. Sur le trottoir, je te raconte pas les histoires des mestres. Quand t'as une dette, Paris n'est plus gigantesque. Donc marche avec un truc dans la veste. Yeah. Les embrouilles de schlag dans le bus de nuit. Yeah. Le soir y'a de l'action, donc jamais je m'ennuie. Yeah. Je vais chez l'épicier, je viens me prendre un flash. Le soir au checker, ça peut vite partir en clash. Yeah.
La musique est sombre, le négo vient du fond. La musique est sombre, le blanco vient du fond.
On rêve de briller comme Paris la nuit. Sous ses lumières, j'ai pris les gels et j'ai zoné. J'ai dormi toute la journée.
On va tout faire pour devenir les princes de la ville. Tu seras ma princesse, on va devenir les princes de la ville.
On rêve de briller comme Paris la nuit. Sous ses lumières, j'ai pris les gels et j'ai zoné. J'ai dormi toute la journée.
3h du mat, tu dans les petites gâteries. Bonbon sur bonbon, aujourd'hui c'est Halloween. J'ai pas attendu le côté obscur pour avoir le flow de Anakin. J'suis défoncé toute l'année. À ce qui paraît, y'en a qui attendent le nouvel an. En vérité, abandonner n'est pas dans le vocabulaire. Déjà que tenter n'est pas suffisant. J'marche dans la ville, bonne et la 8. Quand il s'agit de mes billets, bébé, y'a pas de sentiment. Guette mes rétines, mes cicatrices. Comme le corps à Dolcim, mes histoires en disent long. Hier et aujourd'hui se ressemblent, mais demain sera sûrement différent. Les erreurs font grandir. J'ai un cœur de géant.